Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Et ces vraies voix qui font bouger la France, vous le savez, c'est tous les mercredis jusqu'à 20h sur Sud Radio. Tout à l'heure à 19h30, on retrouve Bismart et Stéphane Soumier. 19h50, tout à l'heure, c'est le conseil de famille avec Olivier Daudet. Et dans un instant, on retrouve la France qui se bouge avec les vraies voix des entrepreneurs. Et on va retrouver dans un instant Denis Jacquet. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs.
Petite entreprise, connaît pas la crise.
Bachung, ma petite entreprise, Denis Jacquet, bonsoir Denis.
Bonsoir Christine.
Alors, pourquoi cette petite musique d'ailleurs? On n'est pas mécontents de l'écouter. Hein.
Pourquoi vous avez choisi? Elle est un peu à contre-courant parce que ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise en France aujourd'hui, ça va être assez difficile à trouver. Donc c'est un petit message d'optimisme ce soir. Puis j'ai quand même résisté près de 3 mois avant de la passer. Donc, elle était tellement évidente dans une émission d'entrepreneur. Donc ça y est, je peux enfin assumer mes pulsions.
Oui, mais alors ce soir, vous allez faire du bien tout le monde. Vous allez nous parler de l'innovation qui fait du bien.
Exactement. On va parler de tous ces entrepreneurs qui découvrent des trucs juste incroyables auxquels on aurait presque tendance tout de suite à dire « Mais non, c'est pas possible, ton idée, ça marchera jamais » et auxquels il faut surtout dire oui.
Alors, vos invités, ce soir, vous avez un grand témoin. Je vous laisse le présenter, Denis, à nos auditeurs.
Bien sûr. Alors, Bertrand, alors comme beaucoup les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette émission en ont pris l'habitude, j'ai l'impression que j'invite que mes copains, mais il peut y avoir 2000 copains dans cette émission parce qu'à force d'animer des réseaux, on rencontre forcément plusieurs dizaines de milliers de personnes dans ces 10 dernières années. Donc, on se tutoie tous, on est souvent très proches et voilà, il y a sur cette place, il y a des entrepreneurs qui gèrent leur entreprise et leurs investissements avec des tableaux Excel, avec des perspectives de rentabilité. Puis, il y a ceux qui ont une vision pour leur pays, pour ce qu'ils ont envie de faire de leur investissement, parce qu'ils étaient entrepreneurs avant d'être investisseurs. Et Bertrand répond parfaitement bien à cette définition. Ils ne sont pas si nombreux, voire plutôt minoritaires, mais il y en a très bien évidemment. Et il ne va pas forcément dans le sens du vent. Il regarde un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Il investit aussi beaucoup dans l'industrie de Made in France. Bref, ce que beaucoup d'autres ne font plus. Donc, je vous présente Bertrand Follier, qui est le cofondateur d'Entrepreneur Venture, qui va nous décrire en quelques minutes. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Bertrand.
Bonsoir. Bonsoir Denis. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous.
Alors présentez-vous.
Très bien. Ben, je vais présenter en effet Entrepreneur Invest. Alors tout d'abord, ben, comme le dit Denis, moi ça fait depuis bien longtemps que je suis un entrepreneur. Après avoir été entrepreneur dans les télécoms, dans le digital, ben, quelque part, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat dans le cadre du financement. Du financement ben, des entreprises et des PME. On en a accompagné, puisque j'ai créé Entrepreneur Venture, qui s'appelle maintenant Entrepreneur Invest, il y a 20 ans. Je l'ai rejoint opérationnellement il y a à peu près une petite dizaine d'années. Et on a accompagné 200 entreprises françaises. Comme le disait Denis, nous sommes des gens qui avons investi dans l'innovation, dans la croissance, dans la technologie, mais pas que, aussi dans le service. Et c'est vrai, c'est un peu plus rare dans l'industrie.
Qu'est-ce qui freine, Bertrand, à votre avis, les investisseurs d'aller dans l'industrie? Trop de risques, trop long terme, dans un monde trop court terme, c'est quoi le frein principal?
Je pense que l'un des freins, c'est que l'on entend un peu partout, c'est l'industrie a un problème de compétitivité, donc ça c'est un premier point, donc il faut beaucoup d'innovation pour compenser cette problématique de compétitivité. Et il y a un petit point quand même, c'est lorsque vous investissez dans l'industrie, bien souvent, vous investissez dans des chaînes de sous-traitance. Donc, vous pouvez avoir au-dessus de vous des donneurs d'ordre et certains donneurs d'ordre ou certaines industries, filières, les grandes entreprises, françaises en particulier, ne se gênent pas pour matraquer, je prends le terme et je l'assume, leur chaîne de sous-traitance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, mais on va dire qu'en général, et c'est l'un des problèmes, les marges sont vraiment tirées et ces entreprises industrielles n'ont pas la vie facile. Et c'est pour ça que l'investisseur, alors à part, là on parle de PME, hein, moi je suis un spécialiste dans le financement des PME, donc on parle de sociétés de 5, 10, 15, 20 millions d'euros, donc des sociétés avec une certaine maturité, mais somme toute des petites sociétés face à un grand groupe, une grande ETI, eh bien, quelque part, ça peut passer pour ce qu'on appelle une variable d'ajustement. Voilà, en tous les cas en France.
On l'a vu d'ailleurs dans la crise, enfin, qu'on vient de vivre, la chaîne de sous-traitance.
Mais bien avant.
Bien avant.
Bien avant. Elle a souffert, mais alors après, évidemment, il y a des secteurs qui ont souffert plus que d'autres. Après, il y en a un que je connais un peu, c'est l'aéronautique, évidemment. Bon, après, on parle, ce n'est pas la problématique d'une chaîne de sous-traitance, c'est la problématique d'un secteur face à une pandémie qui crée un problème systémique sur le secteur aérien et donc l'aéronautique. Mais globalement, il y a une vraie problématique de la sous-traitance. Alors, ça a été plus visible à une époque et ça a été quand même un désastre par rapport à la petite industrie française, ça a été le secteur automobile. Et puis, la problématique du secteur aéronautique, c'est que quelque part, les directions des achats du secteur aéronautique se sont un peu calquées sur le secteur automobile, ce qui fait que ça a été beaucoup de souffrance et dans la chaîne de sous-traitance. Alors après, évidemment, les marges sont un peu plus complexes, compliquées, la compétitivité dont on a parlé, et après, eh bien, ça crée un cercle qui est ce que j'appellerais un cercle vicieux. Donc c'est pour ça, pour répondre à ce que dit Denis, que quand vous êtes un financier, finalement, vous essayez d'aller là où il y a réellement un retour sur investissement, parce que quelque part, c'est un peu l'objectif, c'est de gagner de l'argent, même si vous êtes là aussi pour aider à accompagner des entreprises, eh bien, vous évitez ce secteur, même si il y a quand même de belles histoires, de belles aventures dans l'industrie, la petite industrie française. Donc, je pense qu'il faut y croire encore. Voilà, j'aurais tendance à dire.
Denis, on a aussi d'autres, on va dire, petites pépites que vous nous avez proposées et qu'on va pouvoir entendre dans un instant. Est-ce qu'on peut accueillir la première invitée qui est fondatrice d'un truc que je trouve génial? Elle s'appelle Tania Hiss. Est-ce qu'elle est en ligne avec nous, Tania?
Oui, bonjour Christine.
Bonsoir Tania. Denis, je vous laisse présenter ce que fait Tania, fondatrice de TaniaHiss.com.
Alors Tania, c'est le prototype de la femme qui ne renonce jamais. D'abord, vous allez déceler à son petit accent anglo-saxon, canadien-américain qu'elle vient d'ailleurs. Donc on aime toujours ça en France. Donc, et pour Christine, je comprends votre réaction parce que c'est un produit qui a été vraiment fait pour les femmes avec des talons qu'on peut clipper et déclipper pour s'adapter aux occasions de la journée, travail, marche ou au contraire soirée. Donc Tania, ça fait un long moment maintenant que tu as lancé cette entreprise. Donc, rappelle-nous le concept parce que je pense que personne ne s'en lassera jamais.
OK. Donc, le concept, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre l'élégance et le confort et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux. Donc, c'est juste une toute petite choix cornélienne, mais qui ne vaut pas le détour. Donc, je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser la recherche et le développement et tous nos ingénieurs fabuleux pour résoudre ce problème? Donc, je rêvais depuis des années de le faire. Et ce qu'on a fait, c'est une escarpin. Mais maintenant, il y a des sandales, il y a des bottes, il y a même des cuissards. Et on a une ligne vegan. Mais on peut mettre une petite talon pour marcher. Et une fois qu'on a une réunion, ou une dîner, ou une fête, ou un mariage, ou un endroit où on veut être resplendissante, clic, on enlève le petit talon et on met une talon haute.
Ouais. Et donc, Tania, parce que ça paraît simple, finalement, je prends un talon, je le déclipse, j'en mets un autre à la place, mais raconte-nous un peu cette histoire d'innovation, parce que vous avez mis combien de temps à réussir à faire fonctionner un talon qui soit adapté, parce que adapter la hauteur d'une chaussure, en fait, c'est super compliqué. Donc, raconte-nous un peu cette histoire de cette innovation, comment vous avez réussi à la faire sortir de terre.
Oui, c'est une petite fierté. Je dirais que la première chose que j'ai, c'est que je ne viens pas de la mode. Donc, je n'ai pas eu une approche Christian Louboutin qui est une approche purement design. J'ai compris d'avance que c'était une question d'ingénieur. Et à l'époque, j'étais également professeur à Centrale Paris. Donc, j'avais accès à des ingénieurs et des très bonnes ingénieurs. Donc, tout simplement, on avait des ingénieurs, des techniciens de la chaussure et des experts en matériaux pendant 3 ans de recherche et développement. Et on a juste comblé chaque problème une par une. Donc, en fait, bizarrement, je dirais que le problème que les gens estiment étant majeur, ça, c'est moi qui ai résolu ce problème. Et ça m'a mis 9 mois. Mais d'autres problèmes, comme comment avoir une clip qui peut tenir le poids de la femme pendant qu'elle marche ou elle court ou elle revient d'une aéroport et elle est peut-être chargée. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer cette sécurité tout en restant élégante? Parce qu'en fait, les consignes pour faire une chaussure qui sont magnifiques sont assez strictes. Donc, en fait, il y a des choses insoupçonnées par des personnes qui achètent la chaussure, mais qui ont vraiment pris beaucoup de temps et des expertises hors du monde du chaussure. Donc, par exemple, pour cette miniaturisation, j'ai tourné vers des personnes qui travaillent pour les montres de luxe parce qu'ils ont l'habitude de miniaturiser des pièces mécaniques.
Et Tania, petite question d'actualité, parce que c'est une interview très rapide à chaque fois, nos passages à l'antenne. Qu'est-ce que le Covid pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Parce que je sais que c'était une période très difficile. Et la deuxième question de conclusion sera, où est-ce qu'on peut acheter ces chaussures magiques?
Alors, pour moi, le Covid, ça fait suite de, je dirais, 5 années qui sont très complexes côté Paris. Donc, en fait, si je réfléchis réellement, la dernière année en boutique qui était sans aucun problème, c'était juste avant les attentats terroristes. Donc, ensuite, on a Covid, on a les gilets jaunes. Donc, en fait, j'ai eu dans ma boutique des personnes avec des armes blanches. Et c'est terrifiant. Il y a du gaz lacrymogène, il y a des voitures qui brûlent. Donc, non, les gens ne font pas de shopping. Ensuite, on a pris les grèves. Donc, le mois de décembre, pendant ces grèves, j'ai vendu moins de ma marque. Donc, j'ai vendu 5 paires de chaussures Tennessee de Paris pendant tout le mois. Et une petite boutique au fin fond du Dordogne a vendu 6 paires. Donc, c'est pour dire à quel point ça peut être difficile d'exercer une métier commercial pendant les grèves. Et le Covid a juste... Il a complètement... détruit mon fonds de commerce. En revanche, vous avez bien dit, je tiens à réussir. Donc, j'ai réussi à fermer la boutique. C'était pas facile. Le propriétaire était contre. Et en fait, oui, je peux pleurer d'une certaine façon, mais j'ai augmenté le bénéfice dans la société. Donc là, j'essaie de digitaliser la société, j'essaie de faire une petite trésorerie de guerre, et je pense qu'une fois que 25 millions de personnes ont été vaccinées, je vais commencer à faire du pub pour la société. Et où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver aujourd'hui sur notre site web, donc taniaheath.com, et il y a une boutique à Neuilly, donc la boutique de Neuilly qui travaille avec la marque. Donc si on veut essayer en personne, on peut aller là-bas, ou sinon, comme j'ai changé un Shopify hier, donc c'est mon actualité, on peut maintenant prendre un rendez-vous avec moi et venir directement chez moi pour essayer.
Fantastique.
Ouais, c'est. Ouais, non, mais moi, je suis admirative. Pardonnez-moi, juste j'interviens avec vous, Tania. Vous vivez des épreuves, mais on sent toujours que derrière, ben, on lâche pas. Vous rebondissez. Vous avez. Quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix. C'est ça, Tania, vous dites.
Je pense qu'on n'a pas de choix. En fait, je fais partie des entrepreneurs qui n'ont jamais été financés. Mais j'ai quand même levé 800 000 euros juste avec mes amis, mes enfants, ce genre de choses. Donc, j'ai pas envie de lâcher des personnes qui croient en moi. Et j'ai pas envie de lâcher moi-même. C'est-à-dire, c'est difficile. Mais la réalité, c'est que c'est comme si on me demandait de faire une 500 mètres pendant une tsunami. Il n'y a pas grand chose que je peux faire.
J'aime beaucoup l'image.
Donc, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui est tellement destructrice et tellement dur et tellement horrible. Mais au fond, je suis loin d'être stupide. Je pense que j'ai très bien réagi. J'ai pris les choses par l'avance. Et en fait, il faut voir qu'avant tout ça, j'avais quand même vendu 45 000 paires de chaussures. C'est-à-dire, les gens aiment le produit. J'ai un taux de rachat de 62%. On a un taux de fidélité qui est incroyable. Donc, je pense qu'une fois qu'on est dans le notion de Roaring Twenties, il y aurait de nouveau une demande pour ce que je fais. Et je pense que les gens ont vraiment envie de quitter leur souhait.
Moi, je trouve ça super. Bertrand Follier, grand témoin ce soir des vraies voix des entrepreneurs. Quand vous entendez ça, quand on entend cette comparaison ou cette image, hein, je courais à 100 mètres face à un tsunami.
Je pense que ça est... Alors là, je pense qu'on a un témoignage exceptionnel, parce que là, on parle d'une succession de problèmes, le Covid étant qu'un des aspects. C'est vrai que dans le retail et avec les problématiques qu'on a eues ces derniers temps, c'est une course de haies et voir courir pour ça. Mais ça, je dirais, la problématique, et c'est ça ce qui est formidable avec l'entrepreneuriat et dans ce témoignage tout particulier, c'est cette hargne. Et la ténacité. Et je pense que c'est cela, à un moment donné, qui paye. Je parle souvent d'une expression qui est la 25e heure. Je pense que l'on ne doit pas baisser les bras. Ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus, à un moment donné, trop têtu. Mais quand on dit, ben voilà, j'ai vendu 45 000 paires, j'ai un taux de repeat de 60 et quelques pourcents, ce sont des métriques qui sont tout à fait positives et qui permettent de dire, je fais le dos rond, ce que disait Tania, je fais le dos rond, je ferme la boutique, j'attends. Alors, je pense qu'elle n'aura, j'ose espérer, en tous les cas, plus à attendre trop longtemps en parlant de moi, ouais, après avoir parlé en années. Mais c'est ça le caractère de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur.
Moi, j'avais une question pour vous, Bertrand Follier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Entrepreneur Venture. C'est un fonds d'investissement pour des projets industriels notamment. Mais on parle évidemment de l'après-Covid. Alors, on apprend ce soir à l'instant qu'a priori, il n'y aura pas de confinement le week-end en Île-de-France. On verra la réponse demain à 18h. Mais on sent bien qu'on cherche à sortir et à atterrir de cette crise et qu'il va falloir rebondir. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ou qu'est-ce qu'il faut faire en tous les cas pour permettre aux entreprises qui ont justement fait le dos rond, qui ont des PGE, qui ont pour relancer la machine? Est-ce que ça vient d'elles? Est-ce que ça vient des pouvoirs publics? Est-ce que c'est les deux? Comment ça va se passer?
Tout d'abord, j'aimerais dire que les pouvoirs publics en France ont quand même beaucoup fait. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Quand en mars, cette crise s'est abattue sur le monde économique, il y avait quand même énormément de questions, énormément de désolation. Et je pense que les mesures qui ont été mises en place ont permis, en tous les cas, aux entreprises, quel que soit leur secteur, de pouvoir tenir et faire le dos rond. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Deuxième chose, je pense, on parle souvent d'une reprise en K, et c'est-à-dire qu'il y a en effet un certain nombre de secteurs, bon, on va parler du logiciel, l'éducation, d'autres, évidemment la grande distribution, ainsi de suite, qui ont profité quelque part de cette crise, d'autres qui ont du mal à repartir parce que c'est la restauration, l'hôtellerie, les loisirs, le culturel, et ainsi de suite. Mmh. Je pense que c'est là où on peut parler de dos rond. Je pense que cette période-là va permettre aussi, en tous les cas pour des gens comme nous qui suivons les entrepreneurs, c'est aussi de voir quels sont ceux qui ont été capables de tenir. Donc le témoignage précédent était un très bon témoignage de ce point de vue-là, et ceux qui ont été capables de mettre en place un certain nombre d'actions. Parce que cette crise aussi, c'est aussi un moyen de se poser des questions et de revoir son offre et de réattaquer, de repartir à l'offensive. Donc, je pense que voilà, on a eu des mesures qui ont permis de soutenir l'économie. Je pense que les entrepreneurs, avec ce trait d'esprit qui les caractérise et leurs équipes, parce qu'il ne faut pas non plus oublier dans cette période, ça a été aussi la performance des entrepreneurs de tenir leurs équipes. Hein. C'est pas facile, parce qu'on parle de chômage partiel, tout ça, mais ce sont des moments compliqués. Donc, tenir les gens sur la durée pour repartir. Moi, je suis confiant. Je suis confiant, même si on le dit tout le temps. Hein, maintenant, ces mesures vont petit à petit s'arrêter. Donc, il va falloir que, quelque part, la croissance, la reprise économique, que les gens reconsomment, que les entreprises réinvestissent, je reste confiant. En tout cas, il faut l'être.
Non, Bertrand, j'avais une question. Bon, on connaît tous les deux nos positions. Donc, on a parlé forcément, c'est le rôle des politiques que de sortir les mots opportuns du chapeau, même s'ils sont souvent un peu vides de sens, mais on a parlé beaucoup de relocalisation pendant cette crise du Covid. Est-ce que, comment par miracle, tout à coup, on arriverait à relocaliser l'industrie en France?
C'est bien le mot miracle.
Je suis désolé si la réponse est dans la question.
Voilà, je crois que tu as parlé d'un miracle et je reviens à ce que j'ai dit avant. Quand on a,
enfin, la lourde alors.
La problématique de l'industrie, c'est vrai que quand on regarde dans le détail, c'est deux choses. Ce sont des machines, c'est l'automatisation. En France, on n'est pas les champions du monde à ce niveau-là, hein, bien loin de là. Et ça, c'est un problème de financement. Donc, il y a l'automatisation. Mais il y a un deuxième problème, c'est aussi des techniques. Ce sont des hommes, ce sont des expertises. Et quand on casse, ce que j'ai dit tout à l'heure, une chaîne de sous-traitance, à un moment donné, on perd des expertises. On perd aussi des fois des chaînes de formation, des instituts techniques dans telle région, des choses comme ça qu'on ne retrouve pas. Et ça, ça va prendre du temps pour le remettre en place. Donc, je ne vais pas parler évidemment là du problème de compétitivité, du salaire, ainsi de suite, mais globalement, c'est un problème de financement et un problème d'expertise, donc de formation, et qui va prendre un peu de temps. Donc, en effet, ce n'est pas en claquant des doigts et en disant et en hurlant et en sautant comme des cabris relocalisation, que ça va se passer. En effet, il n'y a pas de miracle. Il va y avoir du travail, c'est du travail de terrain.
La vérité du terrain, une métaphore sportive presque. Merci beaucoup à tous. Merci Denis Jacquet. Merci à vos invités. Merci. Bertrand Follier, fondateur de Entrepreneur Venture, et Tania Eskela. Tania, on vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci beaucoup, Christine.
À très bientôt sur Sud Radio, dans les vraies voix des entrepreneurs. La semaine prochaine, on se retrouve, Denis Jacquet. Très bonne soirée à vous. La France qui se bouge n'est pas terminée. Dans un instant, juste après la pause, on se retrouve avec Stéphane Soumier, avec Bismarck sur Sud Radio. À tout de suite.